Radio Grenouille.
La rédaction vous invite pendant 10 minutes.
Géographie de la pensée critique. Pensée l'émancipation.
10 minutes avec.
10 minutes avec Ludovic Torbé, qui est intervenu dans le colloque Pensée l'émancipation du 19 au 22 février à l'Université Paris-Ouest Nanterre, théorie, pratique et conflit autour de l'émancipation humaine. Il est donc intervenu dans un atelier qui s'intitulait État et stratégie. Et il est avec nous. Bonjour Ludovic.
Bonjour.
Le titre de ton intervention a évolué au cours. Au début, tu devais parler de Bourdieu et la théorie marxiste de l'État. Et puis, tu as proposé esquisse d'une issue. Je disais donc État et stratégie. Et puisqu'il est question de stratégie, vous êtes au cours de la discussion, puisque c'était un atelier où il y avait plusieurs intervenants, au cours de la discussion est arrivée l'idée qu'il y avait du déjà là. Et que pour penser les stratégies, il fallait sans doute partir du déjà-là. Et que ce déjà-là était aussi sans doute un déjà-là, communiste, ou en tout cas un déjà-là au-delà du capitalisme, dans la mesure où, si nous, certes nous reproduisons le capitalisme tous les jours, nous ne faisons pas que reproduire le capitalisme tous les jours.
Oui, en effet. Donc, du coup, le déjà-là en question, en fait, c'est une référence à l'intervention qu'il y a eu à la plénière de hier, donc vendredi 19, à l'intervention de Bernard Friot, donc c'est un peu le dada, c'est un économiste qui travaille sur la protection sociale, et qui insistait sur le déjà-là. Donc, selon lui, c'est une conception du salariat post-capitaliste qui est déjà là dans nos institutions de protection sociale, c'est-à-dire dans la retraite, la socialisation du salaire, le salaire à vie, ce genre de choses. Il dit que c'est un déjà-là sur lequel on peut se fonder pour éventuellement élaborer une conception anticapitaliste du salariat. Et moi, je comptais élaborer un nouveau déjà-là, plus spécifiquement adressé au public que j'avais en face de moi, que moi je qualifiais d'idéologues, donc de gens qui croient à l'efficacité de la parole et donc des pédagogues. Et je voulais insister sur un déjà-là symbolique qu'ils avaient à disposition et qui était peut-être germe d'un nouveau, d'un anticapitalisme, et que ce déjà-là symbolique, même si c'est paradoxal, c'est le symbolisme républicain. Mais je prends en note la remarque de Samy Joshua qui avait à ma droite et qui est prof à Marseille, donc vous le connaissez peut-être, qui a insisté sur l'impossibilité de dire république tout court. Donc c'est vrai, quand je dis imaginaire républicain, il faut ajouter imaginaire républicain social. Et j'essayais de secouer les puces de nos amis idéologues pour les faire travailler politiquement en s'appuyant sur le déjà-là. Puisque comme ils sont pédagogues, ils ont l'habitude de s'appuyer sur le déjà-là dans la conscience des élèves auxquels ils enseignent. Et je juge que dans une stratégie politique émancipatrice anticapitaliste, on dispose avec les mots que moi j'appelle chat-perchés républicains, comme la liberté, l'égalité, la fraternité, la transparence.
Des signifiants maîtres, d'une certaine manière.
Des signifiants maîtres, mais des signifiants maîtres qui sont au moins aussi maîtres de nos imaginaires à nous qui rêvons. Des fois, on les dénie, on est très contre eux, mais qui sont au moins tout aussi maîtres de nous que de ceux qui nous dominent. Ils ne nous domineraient pas s'ils n'avaient pas le drapeau à partir duquel se draper et se blottir, se cacher, s'ils n'avaient pas le drapeau de l'État, de l'universalisme, de la citoyenneté qui inclut tout le monde dans la République une et indivisible. Sans ça, c'est assez difficile d'apparaître comme Premier ministre.
Mais au fond, ce que tu proposais, c'était moins une pensée de l'émancipation qu'une praxis de l'émancipation, en allant d'une certaine manière relever auprès de tous ceux qui, d'une certaine manière, trahissent ces signifiants maîtres.
Alors, là encore, mon propos s'inscrivait en continuité de la plénière de hier, et du coup, il y avait non seulement Bernard Friot qui intervenait, mais surtout Frédéric Lordon, Frédéric Lordon, et qui, lui, dans ses ouvrages, reprend une catégorie spinoziste et en fait un usage politique un peu plus dense à la suite de Matron. Et cette catégorie spinoziste, c'est l'affect d'indignation. Et moi, je pense, et j'ai essayé de soutenir, que le déjà-là des principes et de la République des frontons et du symbolisme républicain, ce que tu as appelé les signifiants maîtres, je soutenais que ces signifiants maîtres, si on mettait ceux qui les dévoient et les trahissent, c'est-à-dire nos dirigeants, j'ai pris l'exemple dans mon intervention de la Cour des comptes, si on mettait nos dirigeants en face de la trahison des signifiants maîtres, eh ben on pouvait susciter l'indignation de la part des classes à mobiliser. Là je reprends les éléments de la discussion, c'est pas tellement mon vocabulaire, les classes à mobiliser, mais du coup c'est un usage générateur d'indignation de la confrontation entre la pratique de certains dirigeants face aux principes qui sont supposés régir leur pratique, donc les principes universels et républicains, et surtout, bon ça c'est pas vrai, on sait qu'ils nous trahissent, on est au courant, mais qui surtout sont la condition de leur domination. Personne ne se ferait élire s'ils jouaient pas le jeu de la République. Faut théâtraliser l'officiel, comme dit Bourdieu. Et du coup, moi, l'opérateur pratique, t'as raison, c'était une pratique que je proposais, c'était de mettre en question le défaut par rapport au mandat et à l'universel pour susciter l'indignation et mobiliser les classes vers un changement de régime, et ce que moi j'appelais une constituante.
Alors en même temps, tu dis vouloir d'une certaine manière aussi s'adresser à, disons, la colère qui s'exprime au-delà d'une colère que nous pouvions avoir ensemble dans cette salle où nous étions, et qu'il s'agissait pour toi finalement de redonner un souffle à ces colères. Est-ce que cela veut dire aussi qu'il s'agirait dans cette praxis de réorienter l'affect de colère ou l'affect d'indignation ?
Alors, c'est compliqué parce que moi, je m'adressais à des idéologues que j'avais en face de moi. La salle était pleine, on est à Nanterre, en semaine, en après-midi. Donc, il n'y a pas grand monde de disponible à part des professionnels de la parole ou du chômage, mais parfois, c'est les mêmes, on le sait tous.
Tu as parlé à un moment donné d'autres, justement, catégories de la population.
Du coup, ces gens-là, qui sont-ils ? C'est souvent des gens à la fois en position d'être intéressés à l'État, puisque ce sont des produits d'État. Donc, ils ont fait de longues études, ils ont beaucoup fréquenté l'État, ils y ont beaucoup cru. Et en même temps des agents d'État. Ils sont assez souvent fonctionnaires ou dans tous les cas assez familiers des valeurs universelles que relaie l'État. Et donc ces gens-là, ces idéologues d'État, ils sont en position d'agir sur les indignations en les suscitant, en les créant par leurs commentaires et leurs avis. Et du coup, moi, je m'adressais à eux et j'essayais de leur faire sentir que l'affect d'indignation qu'il y avait chez le peuple, et ça, c'est donc Frédéric Lordon et même Éric Cazan qui ont fait référence la veille, ces affects d'indignation, ils en étaient aussi responsables et ils pouvaient éventuellement les orienter, même si derrière toute pratique d'orientation, il y a de la domination, et j'en suis conscient, mais qu'ils pouvaient jouer avec en leur donnant une issue positive par la constituante et par la dénonciation du manquement au mandat et aux universaux républicains de nos dirigeants.
Mais au fond, est-ce que tu n'es pas là en train de décrire la position d'un intellectuel engagé ?
Je m'adressais à des intellectuels que moi je préfère appeler idéologues et je m'adressais à une salle quasiment entièrement marxienne. Et moi j'ai plutôt un bagage théorique bourdieusien et marxien dès le début. Et donc d'après moi, qui pense praxis politique, donc ça c'est une conceptualité marxienne, à des idéologues, qui parle praxis politique à des idéologues, et ben forcément croit à l'intellectuel engagé. J'étais en train d'essayer de réengager des intellectuels. Et dans ma terminologie, c'est de rendre praxisant des idéologues.
Julien Cavanis, qui est intervenu dans un autre atelier sur la critique de l'idéologie faite par Foucault, il rappelait que, par exemple, Foucault considérait qu'il y a l'endroit de l'intellectuel, qui est un endroit, disons, de dire voilà ce qui se passe d'une certaine manière. Et puis, il y a l'endroit de l'homme engagé et de ne pas mélanger les deux.
C'est soutenable, surtout du point de vue de Foucault. Et en un sens, on peut le dire. Mais alors, pour concilier l'avis de Foucault et justifier ma vue, je dirais que c'était l'avis d'un homme engagé, certes intellectuel, là je parle de moi, qui s'adressait à des intellectuels. En un sens, qu'est-ce que j'aurais pu leur dire ? Que secouons-nous les puces, puisque je m'inclus là-dedans, nous tous idéologues. C'est-à-dire que le point de vue d'un homme engagé en face d'un intellectuel, j'imagine même du point de vue de Foucault, c'est de lui dire à l'intellectuel, ok, certes, cherche, ne sois pas obscurci dans tes idées et dans ta recherche de la scientifique par des mobiles pathologiques, comme disait Kant, et par des éléments contingents du réel, certes, sois le plus autonome possible dans ta recherche, mais tu es un homme comme moi. Donc dès qu'un homme engagé est en face d'un intellectuel, il a le droit de le rappeler à son point de vue d'homme. Et il me semble que c'est ce que j'essayais de faire, du point de vue de Foucault, quoi.
J'aimerais qu'on revienne sur ce déjà-là symbolique, hein, que tu rajoutes par rapport à un déjà-là finalement d'une histoire des luttes, qui était proposée par Bernard Friot, hein, c'est cela. Donc à ce déjà-là symbolique, d'une certaine manière, ce que tu proposes, c'est une opération sur le langage, une opération sur le symbolique. Et finalement, est-ce que ce n'est pas aussi produire de la littérature ?
Alors, c'est un usage du symbolique. Et là, moi je considère, mais je ne l'ai pas justifié pendant mon propos, et du coup, je ne sais pas à quel point c'est tenable en public, mais je considère être fidèlement dans les pas de Pierre Bourdieu, qui, dans une conférence particulièrement très négligée des commentateurs, qui s'appelle « Un fondement paradoxal de la morale », et dans ses cours sur l'État qui ont été publiés l'année dernière, insiste sur l'efficacité que peut avoir la remise en question des officiels en fonction de la définition officielle de leur fonction officielle. Donc pour lui, c'est pas qu'un usage littéraire que d'incriminer au nom du symbolique des praticiens, certes des voyeurs, certes traîtres, certes malveillants éventuellement, mais c'est pas faire de la littérature que de convoquer le symbolique. En un sens, on le fait tous dès qu'on parle, dès qu'on croit produire un effet en parlant, on se paye de mots. Et donc du coup, on est littérateur, puisque les littérateurs sont des praticiens et des professionnels des mots. Donc à mon sens, l'efficacité symbolique déjoue un peu la critique d'idéalisme, qui est un procès classique chez les marxistes, ou la critique de littérature qu'on pourrait rencontrer.
En somme, à la question que peuvent les intellectuels, on peut y répondre des effets de parole.
Oui, des effets de parole et des effets d'affect. C'est pour ça que moi j'étais quand même assez content, malgré les réactions amusées et les réactions théoriques un peu rétives, de voir la salle amusée, rieuse, dérangée. Les réactions affectives sont au moins aussi importantes que les effets intellectuels. Et donc d'après moi, l'intellectuel, il doit jouer sur quel symbole il met en face de quels affects, et auprès de quelle habitude symbolique et quelle habitude affective. Et tout ça est un travail un peu fin. C'est pour ça que j'essayais de plaider pour les idéologues. Je pense qu'il n'y a pas d'idée vraie et de vérité absolue, qu'on est tous en train de se payer de mots, qu'on est tous des magiciens de la parole, et que du coup, à cette aune-là, on fait des effets en parlant.
Dans cette praxis que tu proposes, c'est-à-dire d'aller relever chaque fois qu'il y a de la trahison d'une certaine manière ou du manquement par rapport à ces mots symboliques, par rapport à tous ces symboliques, tu proposes aussi quelque chose d'autre qui est celui de finalement court-circuiter les dispositifs discursifs sur lesquels les élus, les dirigeants, les chefs d'entreprise s'appuient pour fonder finalement leurs droits. Donc tu dis notre rôle est celui de couper la parole.
Bon, j'ai pas dit notre rôle est de couper la parole positivement. Ça, c'était plutôt un constat. C'est vrai qu'entre intellectuels, on a coutume de couper la parole, et c'est d'ailleurs pour ça que ceux qui font prof dérangent autant ceux qui ne sont plus élèves. Donc du coup, c'est vrai qu'on a des habitudes de couper la parole, mais si on veut donner un rôle politique à cette fonction et cette habitude de couper la parole, d'après moi, il faut qu'on suscite un affect. Et susciter l'affect d'indignation, on a une technique que j'essayais de défendre pour le faire, qui est de d'incapacité et de rendre incapable, moi j'ai dit de couper la retraite symbolique à nos dirigeants. Ça, c'est des effets de discussion de tous les jours, des effets de dialogue, de plateau télé. Sur un plateau télé, on peut couper la retraite symbolique d'un dirigeant traître en lui disant: mais regarde, qu'est-ce que tu fais, ton comportement n'est pas à la hauteur de ton mandat, tu es là pour le peuple, tu es censé défendre des symboles, et qu'est-ce que tu fais, tu te plies, tu dilapides les ressources de l'État, comme le directeur de la Caisse des dépôts dont je parlais, et ce truc-là est insupportable. Et du coup, à mon sens, si on dénonce sa pratique à l'aune des principes qui fondent son autorité, il a de grandes chances de ne pas pouvoir répondre autrement qu'en disant « c'est les nécessités, mais voyez-vous, c'est comme ça, je m'adapte », et du coup de paraître un peu faible par rapport à l'espoir d'une révolution constituante. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'adosser dos à dos dans mon intervention le rôle du symbolique et de ce que toi t'appelais couper la parole, avec la proposition positive qui, d'après moi, donne une résolution et un espoir affectif, qui est la constituante. Et donc, à mon sens, couper la parole, c'est surtout couper la retraite symbolique et ainsi susciter l'indignation et aussi la perte de croyance. Les gens vont dire du balai, quoi.
Cette indignation ne peut être suscitée qu'à partir du moment où tout le monde croit à ces mots symboliques: démocratie, liberté, égalité, commun, souveraineté. C'est-à-dire, il faut bien que tout le monde y croit. Est-ce que tout le monde y croit?
Mais Moi, j'avais une analyse un peu historique de l'affaire et je constate que finalement, l'État a la main sur une grande partie des effets symboliques. Alors là, je m'inscris totalement dans la démarche de Pierre Bourdieu dans ses cours sur l'État. Et il y a d'autres traditions d'historiens qui sont totalement d'accord avec lui et même que Bourdieu emprunte, hein, c'est pas nouveau du tout. Mais c'est vrai que l'État a un pouvoir symbolique assez fort. Il constitue notre emploi du temps, il constitue nos élections, nos valorisations. Durkheim disait qu'il produit un conformisme logique, c'est-à-dire il dit ce qui est vrai et faux, et un conformisme moral, c'est-à-dire il dit ce qui est bon et mauvais, c'est un peu le rôle du droit. Et donc du coup, c'est vrai que la plupart des symboles d'État, ceux qui sont un peu la quintessence symbolique de l'État, donc là le fronton républicain, le triptyque, tout ça, c'est vrai qu'on est quasiment obligé d'y croire, tant la prise symbolique que l'État a sur nous, si on suit Bourdieu, Durkheim et cette tradition, est forte. Et donc d'après moi, oui, on peut faire ce pari-là. Après, moi ça c'était un truc un peu, une analyse un peu et scolaire, et Samy Joshua, à ma droite, pendant la reprise, a simplement évoqué une expérience historique que j'ai pas pu vivre puisque j'avais seulement 2 ans, qui était le bicentenaire de la Révolution en 89, où d'après lui, semble-t-il, a constaté et a vécu intimement l'espèce de verve révolutionnaire encore présente. Donc d'après moi, bon, ok, ça fait 25 ans, mais on peut encore y croire.
Il y a une phrase de Marx qui a été citée et qui va dans le sens finalement de ce que tu as pu développer. Cette phrase, c'est ceci: une idée qui s'empare des masses devient une force matérielle.
C'est pile poil ce que Bourdieu, les Durkheimiens, les Weberiens et toute une tradition de la sociologie appellent l'efficacité symbolique. Et c'est vrai que moi, dans ma lecture du texte marxien, j'accorde une importance particulière aux idées, et je pense que le matérialisme historique ou dialectique ne peut pas faire l'impasse sur l'efficacité symbolique, et a fortiori dans un monde de communication où on s'écoute à la radio. Là, on se rend bien compte que beaucoup des rapports humains et des rapports sociaux, qui sont essentiels chez Marx, les thèses sur Feuerbach le montrent, beaucoup des rapports sociaux sont des rapports symboliques ou sans coprésence. Les idées voyagent beaucoup plus vite que nos pratiques. Mais ça ne veut pas dire que les idées ne sont pas une pratique. Je m'inscris dans la théorie bourdieusienne, et pour la théorie bourdieusienne, les idées sont une pratique. C'est pour ça que c'est si intimement lié aux affects. Mais dans tous les cas, évidemment que les idées font le monde aussi.
Dernière question, si tu veux bien. Tu disais, finalement, ce que nous faisons, ces opérations de langage, c'est de la magie.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui échappe à la rationalité.
En fait, la rationalité... c'est philosophiquement très très lourd à justifier, hein, donc je vais même pas citer de nom ni de doctrine pour ne pas importuner les auditeurs. Mais si vous voulez, le langage et la rationalité, l'idée même de science ou de vérité, c'est un effet de plein de pratiques linguistiques. On a d'abord parlé avant de croire à la vérité. Et donc, si vous voulez, la rationalité, c'est déjà un peu se payer de mots. C'est perdre l'espèce d'effet mythique, magique, qu'il y a derrière chaque acte locutoire, où quand je parle, je suis compris plus ou moins bien, où je suscite des affects plus ou moins positifs, et moi-même, j'en charrie des affects et des peurs plus ou moins positives. Et c'est dans cette rencontre magique entre de corps-esprit que se joue l'acte locutoire. C'est pas uniquement de la rationalité froide qu'on peut analyser a posteriori en regardant si c'est plus ou moins logique. C'est se payer de mots que de croire que tout le langage est rationnel.
Mais si c'est se payer de mots, c'est-à-dire si c'est aussi instituer, par exemple instituer le mot liberté, on peut aussi le destituer.
Totalement, mais heureusement on a l'histoire pour nous. Moi, tout ce que je défends est un point de vue situé et daté. Nous sommes tous des produits d'histoire et on peut chercher à destituer tout ce qu'on veut. On est quand même le produit de ce qui nous a institué. Et là, je vais prendre la définition spinozo-lordonienne de l'État. L'État, c'est de l'affectif institué. Et de l'affectif institué en mots. Et ça, c'est ce que dit plutôt Bourdieu. Et du coup, on peut faire ce qu'on veut pour instituer autre chose. On doit composer avec ce qui nous a institué nous-mêmes. Alors du coup, c'est vrai que la liberté, on peut la défaire, mais pour le moment, on va s'appuyer dessus.
Merci Ludo Torbay.
Merci à toi.
Je rappelle que tu intervenais dans l'atelier État et stratégie dans ce colloque Penser l'émancipation, 19-22 février, Université Paris-Ouest, Nanterre. Merci beaucoup.
Radio Grenouille. La rédaction vous invite pendant 10 minutes.
Géographie de la pensée critique. Penser l'émancipation.
10 minutes avec...